Vous vous souvenez de Bruno Retailleau, l'ancien ministre de l'Intérieur, aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle, puisqu'il a été désigné par les adhérents de son parti qu'il préside, les LR. Eh bien, Bruno Retailleau veut mettre au banc des nations européennes l'Espagne du Premier ministre socialiste Pedro Sanchez. Pourquoi ? Parce que l'Espagne veut régulariser 500 000 sans-papiers pour soutenir l'économie de son pays. Ah ben la virgule est passée, je croyais qu'on ne l'avait pas passée. Ah non, elle est passée. Donc on continue, on enchaîne. Donc 500 000...
La magie du direct.
Oui, t'as vu, j'ai attendu.
Ah,
500 000, alors ce sont des gens qui sont chez nous, enfin qui sont en Espagne déjà, qui travaillent, mais qui n'ont pas les papiers. Et donc le gouvernement socialiste dit, il faut les régulariser, on en a besoin, etc. Le patron des Républicains, Bruno Retailleau, dit que c'est une très mauvaise idée, parce qu'en ce moment, on est plutôt dans l'idée de durcir les politiques migratoires dans une grande partie de l'Europe, et l'Espagne va finalement lancer un appel d'air. Rappelons que l'Espagne est l'une des trois principales portes d'entrée d'immigration en Europe, avec l'Italie et la Grèce, majoritairement via son archipel des Canaries au nord-ouest de l'Afrique. Alors, qui a raison ? Est-ce qu'il faut suivre l'exemple espagnol ou au contraire, comme le dit Retailleau, c'est un modèle à fuir ? Le 32-16 pour intervenir Didier Giraud.
Moi, je pense qu'on ne peut pas faire le constat qu'une partie des maux de notre société, c'est une immigration qui est pas régulée, c'est une immigration qui ne va pas vers de l'intégration. C'est quand même une partie des maux de notre société. Enfin, je pense que ceux qui sont dans les tribunaux peuvent régulièrement en témoigner. Et derrière ça, dire on va régulariser massivement. Enfin, la différence entre nous et l'Espagne, déjà, c'est concrètement une fiche de paye, hein. Parce que la fiche de paye de l'Espagne et la fiche de paye de la France, c'est pas la même. Et qui dit régulariser, dit emmener les patrons vers payer des charges sociales. Donc je suis pas sûr que, un, l'immigration de travail qu'il y a chez nous, on puisse la régulariser comme ça et qu'elle se transforme en CDI. Ça, j'en suis pas du tout d'accord. Et puis derrière ça, il y a quand même une partie des problématiques de la France autour de la délinquance où on peut faire des ponts avec l'immigration. Et je pense que Retailleau, il a un peu raison de dire que...
Attention danger.
Ben oui, même si les pays sont différents et que l'Espagne a peut-être intérêt à faire ça, j'arrive pas à comprendre c'est quoi la logique de régulariser massivement.
La logique,
parce que quand tu régularises massivement,
la logique est démographique.
Je veux dire, Retailleau peut pas dire tout et son contraire. On peut pas à la fois dénoncer une immigration qui ne travaillerait pas et qui viendrait là uniquement pour profiter de ce que peut amener la France, mais sans amener de richesse à la France puisque nous ne travaillons pas. Et puis dénoncer un pays qui régularise 500 000 personnes qui travaillent.
Oui, mais qui sont clandestines.
Qui travaillent ou qui travaillent pas.
Non, mais qui travaillent, si.
Bah non, mais les clandestins, par définition, tu sais pas trop ce qu'ils
mais
font.
Mais tu régularises parce qu'ils
sont sans papiers, en tout cas.
Ils sont sans papiers, mais ils travaillent.
Donc ils sont arrivés clandestinement dans le pays. Et ce que Retailleau dénonce, c'est que finalement, on leur donne raison.
Ça va être un appel d'air.
C'est-à-dire
tout le reste du village va vouloir venir.
En disant, finalement, allons-y, allons en Espagne, on sera régularisés. Et en même temps, je comprends l'argument de l'Espagne en disant, on manque de main-d'œuvre.
On a besoin de main-d'œuvre. Voilà. Comme ça s'est passé en France à une époque, comme ça peut se passer partout. Quand tu as besoin de main-d'œuvre.
En Italie aussi.
Tu interroges le moindre artisan que tu as dans ce pays, le moindre artisan te dit je ne trouve pas de main-d'œuvre. Oui. Donc si tu veux, à un moment, il va peut-être. Moi, j'ai des amis qui sont dans le BTP, les artisans et ouvriers qu'ils ont, c'est des Roumains, c'est des Ukrainiens, c'est des Polonais, mais c'est pas des Français.
Mais on est pris entre deux injonctions contradictoires.
Sauf que la différence entre l'Espagne et nous, c'est les charges sociales qui sont pas les mêmes.
Oui,
quand
ça
même,
tu as raison.
Et du coup, la différence entre le net et le brut, si demain tes copains qui sont dans le BTP leur dit j'ai 50 clandés là. Tu leur files un CDI avec les charges de la France, peut-être qu'ils prendront pas les 50. Quoi,
On en revient à ce qu'on disait avec David Lisnard tout à l'heure, peut-être qu'il va falloir quand même qu'on revoie notre politique de charges, etc.
Le zéro immigration, c'est flatteur, mais bon, c'est très populiste et on sait que ça marchera pas. Tu parlais justement de l'Italie, parce qu'en effet, ça concerne tous les pays européens.
L'Italie, elle a fait pareil.
Madame Meloni a fait pareil, tout en mettant des règles plus dures pour l'arrivée des nouveaux migrants.
Toujours est-il qu'elle a été élue sur une ligne ferme et et elle a dû régulariser massivement.
C'est
elle,
le pays c'était le plus vieux du monde, hein, l'Italie.
C'est de 500 000 migrants. Mais la vraie question, en fait, elle n'est pas idéologique, elle est structurelle. On a un vrai problème de vieillissement de la population, oui, des pénuries de main-d'œuvre, donc on en a besoin. C'est
mais on a aussi un vrai problème de trafic de hachiches, oui, dans les banlieues,
oui, bien sûr,
où il y a un lien évident.
Alors, sujet,
il y a
quand même, sujet.
Pour quand même
réguler,
mesurer tes propos, c'est que l'Espagne a encore un taux de chômage très élevé, au-dessus de 10%. Mmh. La France a 8% de chômeurs. Oui. Donc beaucoup disent, attendez, on serait effectivement en période de plein emploi avec un manque de main-d'œuvre, ça se comprend, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ne travaillent pas dans notre pays, qu'on pourrait déjà commencer par faire travailler. Mais... Et l'Espagne a un chômage encore très important, même si la croissance le fait un peu baisser. Ouais. Donc c'est ça aussi qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire que comment ça se fait que ces pays n'arrivent pas à faire travailler leurs propres
chômeurs.
Oui.
L'autre réalité en France, c'est que tu as beaucoup de personnes étrangères qui sont en situation irrégulière sur le territoire français et qui travaillent au noir. Donc est-ce que ça, c'est pas plus intelligent de les régulariser pour qu'à un moment donné, ils payent aussi
nos impôts? Tu crois que le patron, il veut ça? Si le travail au noir, c'est justement parce
c'est
que
pour baisser, c'est pour enlever les charges.
Non mais parce que j'en fais aussi du droit des étrangers, et quant à l'employeur qui veut aussi aider son salarié qui l'emploie au noir, pour le régulariser, c'est très compliqué. Donc
Nous sommes avec Julien qui est avec nous au 32-16, qui voulait réagir. Il nous appelle de Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Que pensez-vous de ce qui se passe en Espagne? Est-ce qu'il faut suivre cet exemple ou au contraire, comme le dit Retailleau, surtout pas? Il veut même mettre au banc des nations européennes l'Espagne.
Ah non, bonjour les GG. Non, faut surtout pas. Faut surtout pas pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce soit l'Espagne ou même nous, hein, il y a une crise du chômage qui est assez importante. Donc on a déjà du mal à mettre à l'emploi les gens qui sont chez nous, déjà pour commencer. Ensuite, ça crée un appel d'air énorme et ça crée un appel d'air qui a des conséquences humaines très importantes. Puisque là, qu'est-ce qu'on va faire? On va régulariser 500 000 personnes qui vont pouvoir aller se déplacer partout en Europe. Donc globalement, ils vont aller au pays qui est le plus avantageux pour eux. Et qu'est-ce qui va se passer derrière? Ça va créer un appel d'air pour tous les autres, en fait, qui vont vouloir venir et traverser coûte que coûte, quitte à y rester, enfin à y laisser leur vie. Donc on a une politique, enfin on a des gens qui ont des idéologies politiques qui prônent justement l'ouverture, l'humanisme et tout ça, mais qui n'ont aucun problème à faire en sorte que les gens crèvent dans la Méditerranée. Ça les dérange pas, quoi. Et au-delà de ça, j'ai envie de dire, les gens qui sont déjà en place et qui ont du mal à vivre, qu'est-ce qui va se passer pour eux d'ailleurs? Parce que on a déjà du mal à assumer les gens qui sont sur le territoire, que ce soit français, espagnol ou n'importe où, et on va faire encore venir d'autres personnes. Mais comment on va financer tout ça? Donc ok, là on régularise 500 000 personnes qui sont en emploi en Espagne, machin. Mais déjà de base, ces 500 000 personnes, elles sont dans l'illégalité, en fait. Là on est en train de justifier.
Oui, le principe de la régularisation. Hein.
C'est le principe de la régularisation, oui.
Mais en fait, on a des gens qui...
Oui, mais est-ce que c'est pas pragmatique? Est-ce que, Julien, je suis d'accord, mais vous voyez, même l'Espagne de Meloni, alors c'est drôle parce que, l'Italie Meloni, c'est-à-dire qu'on a un gouvernement socialiste qui est vraiment à gauche en Espagne et on a vraiment la droite dure en Italie. Finalement, les deux font la même chose. Alors, ce qu'a fait l'Italie en plus, c'est quand même, elle a mis des règles beaucoup plus drastiques.
Elle a choisi ses métiers, l'Italie.
Elle a aussi
durci. Elle a choisi ses métiers, c'est quand même pas pareil, Olivier.
Alors, Charmine, elle a durci, effectivement, l'accès aux frontières et elle a choisi ses métiers. Là, on parle de 500 000 régularisations sans véritablement
critères. Les gens qui sont déjà sur le territoire.
C'est ce qui s'est passé d'ailleurs en France sous un gouvernement socialiste. C'était celui de Lionel Jospin qui, dans les années 90, avait aussi décidé de régulariser massivement. À l'époque, il y avait eu les mêmes débats. On tourne toujours sur les mêmes débats.
Aux gens qui sont en galère actuellement pour remplir leur carburant et à qui on dit écoutez messieurs, vous allez devoir payer encore plus d'impôts parce qu'en fait on va faire venir des gens qu'il va falloir financer. Mais attendez, moi j'ai déjà...
Oui, mais s'ils travaillent, si ces gens-là travaillent,
ils travaillent, mais déjà on a sur les territoires des personnes qui n'arrivent pas à trouver du travail. Alors il y a plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que il y a la géographie, mais au-delà de ça, on pourrait déjà obliger les gens qui sont sur le territoire à aller travailler avant de dire on va importer des gens pour travailler. Enfin, je sais pas, on a un chômage record. Vous l'avez dit, en Espagne, il y a 10% de chômage et on importe des gens pour pouvoir venir travailler. Mais à un moment donné, ça peut pas aller.
Parce que vous savez,
mais parce que
très bien,
il y a un chômage record parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne veulent pas faire les métiers que font les autres, quoi.
Voilà, des métiers difficile.
Les métiers difficiles, dans les pays dits occidentaux, les gens ne veulent plus les faire.
Merci Julien d'avoir appelé au 32-16. Nous sommes avec notre boulanger Jérôme du côté de Nice, dans les Alpes-Maritimes. Bonjour Jérôme.
Bonjour Alain, comment ça va?
Ben c'est Olivier, mais ça va quand même.
Pardon,
Alain est à Nice, d'ailleurs, vous allez peut-être le croiser. Dites-moi, Jérôme, qu'est-ce qu'on fait? Alors, est-ce qu'il faut suivre l'exemple et régulariser massivement les travailleurs immigrés sans papier?
Ben, on n'aura pas le choix, en fait, parce que les jeunes Français, aujourd'hui, ne veulent plus travailler dans le métier, travailler dans le bâtiment, dans le service à la personne, dans le nettoyage, on ne trouve plus personne.
Alors, attendez, on ne vous entend pas très bien, rapprochez-vous de la fenêtre, ça ne passe pas très bien, là.
Ouais,
je vous n'avez pas personnel. Encore la 5G à Nice, hein, je crois que c'est pas en arrivant.
Dans le fournil, ça passe pas très bien.
Ah, si vous restez dans le fournil, ça va être compliqué. Ouais, vous dites quoi? On n'a pas le choix parce que finalement, vous n'arrivez pas à trouver d'employés dans la boulangerie?
Non, on n'arrive pas. Et puis quand on en trouve, c'est de suite en maladie, de suite les absences, les retards, ça traîne la patte, ça fait que de se plaindre. Alors qu'eux, ils sont motivés, ils sont travailleurs, ils sont... Enfin, moi, je suis épaté par mon apprenti, sincèrement.
Vous avez un apprenti qui vient d'où?
De Côte d'Ivoire.
De Côte d'Ivoire, d'accord.
Ouais, ouais.
Et alors, ça se passe bien?
Ça se passe merveilleusement bien. Sincèrement, je conseille à tous mes confrères de travailler avec eux. Ils sont toujours à l'heure, toujours propres, jamais en mode travers.
Et vous avez envie qu'il ait ses papiers, le régulariser?
Et je ferai tout pour. Oui.
Et c'est compliqué ou pas? Maître Pégan, oui, c'est compliqué.
Ah oui, c'est compliqué.
Oui, pour l'instant, oui.
Ouais, donc vous avez déjà tenté, vous avez rempli un dossier pour la préfecture, Jérôme?
Eh oui, mais il est en attente, malheureusement.
Eh oui, mais ça, c'est en fait, les délais sont tellement longs parce qu'il y a
beaucoup de dossiers. C'est l'administration française.
Bien d'accord, l'absurdité de la lourdeur.
1800 serfois pour faire un dossier de quoi que ce soit.
Oui, mais alors là,
après, il y a des enquêtes et tout ça.
Non, mais là, il y a un truc qui ne va pas. Donc, d'un côté, on régularise en masse, et puis de l'autre, on va emmerder
un boulanger.
Un boulanger qui a un apprenti qui est méritant et qui a envie de garder.
Quand le patron se porte garant et d'accord de lui payer des charges, parce que c'est aussi ça, c'est de passer d'un système où, enfin, si l'apprenti, il n'est pas super rémunéré, mais ça veut dire que si on passe avec un CDI, c'est des charges et ça change le coût de la main-d'œuvre. Donc, quand c'est le patron qui est volontaire pour faire ça, à un moment donné, devrait être le garant pour
donc
que.
L'État pourrait déjà assouplir, enfin, être plus pragmatique.
Oui, mais
sur
derrière, après, il y a des abus aussi. Et parfois, certains employeurs peuvent être poursuivis pour aide au séjour irrégulier. Donc, tu vois, c'est aussi un peu tendancieux pour les employeurs de temps en temps.
Ouais. Ouais. En tout cas,
c'est toujours un peu le serpent qui se mord la queue.
Oui, Jérôme.
Pour l'instant, il est mineur, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'à la majorité, ça va être plus compliqué. Ouais.
Alors, qu'est-ce qui se passe à la majorité, justement?
Là, il est pris en charge par une association. Et malheureusement, à ses 18 ans, il va être livré à lui-même.
Et oui.
Parce que c'était un mineur isolé, c'est ça?
C'est un mineur isolé, oui.
Donc là, il est pris en charge, si j'ose dire, par une association. À 18 ans, il est dans la nature, quoi, en fait.
C'est exactement ça.
Mais avec quel type de papier?
Pour l'instant, aucun. Là, il attend au moins un titre de séjour ou un permis de travail.
Ouais, mais alors, voyez, pardon, excusez-moi, mais c'est la débilité française. Hein, je vais être cash, mais on a donc quelqu'un qu'on prend en charge parce que les mineurs isolés, effectivement, on les garde chez nous. Il y a d'ailleurs même
pendant qu'il est mineur, on n'est pas foutu de lui trouver un statut.
Non, mais d'ailleurs, il y a une obligation de la France. Il y a une obligation faite à la France de les garder.
Sinon, on est condamné.
Donc, le mineur isolé, on le garde, on le prend en charge par une association, donc on met les moyens, etc. On lui trouve un boulot. Donc il y a une démarche d'intégration par le travail, ça se passe bien, on le forme, il va apprendre à parler français, etc. Il va se former, et puis à 18 ans, on lui dit, bah écoute, tout ce qu'on a fait, ça sert à rien, maintenant, démerde-toi, et il y a des chances qu'on t'expulse. Enfin, pardon, mais c'est quel temps perdu, c'est complètement débile, c'est-à-dire on est sur deux logiques différentes. On est dans une logique très protectrice au début d'intégration, et ensuite on dit, bah non, maintenant, t'es comme les autres, tu vas te débrouiller.
Mais le dossier qui est déposé à la préfecture est censé prospérer, hein, quand même, parce que si tu commences à faire les démarches en tant que mineur isolé avec un employeur parce qu'il t'a trouvé un travail et qu'ensuite de quoi tu veux être régularisé, au moins avoir
Mais la préfecture des Alpes-Maritimes, est-ce qu'elle va regarder de près son dossier ou est-ce qu'elle va.
Ils sont censés le faire, après, tu sais, il y a l'utopie et c'est la réalité.
Bah non, mais l'efficacité surtout. C'est idiot de se
soit le mec qui s'intègre, il rentre dans le rang, il fait chier personne, dans quel cas on lui donne des papiers, soit c'est un qui fout le bordel et puis on le renvoie chez lui quand il a 18 ans.
On ne renvoie pas les OQTF C'est-à-dire les gens qu'on ne veut plus chez nous parce qu'ils ont commis des actes souvent délictueux et on ne sait plus quoi en faire parce que les pays ne veulent pas les récupérer. Ouais, ça,
et en revanche,
un jeune méritant,
comme ça,
etc.
T'es pas foutu de lui faire des papiers.
On n'est pas foutu de lui faire des papiers pour qu'il reste chez. Enfin, sincèrement, excuse-moi, Sandrine,
c'est mon avis sur la tête. Mais du coup, ça, je ne peux que abonder.
Du coup, il va bosser sans papier.
Et puis, le temps qu'on examine son dossier, il aura 17 ans. Quand il aura 18 ans, il deviendra peut-être au QTF parce qu'il aura basculé dans la délinquance, on va savoir quoi. Enfin, à un moment donné, c'est aussi ça, quoi.
Bon, ben merci en tout cas.
Fabrique la misère quand même, notre histoire.
Merci en tout cas, Jérôme, pour ce cas très précis qui montre bien qu'on marche un peu quand même sur la tête. L'absurdistan que dénonçait
David Snar. Et bravo à lui, parce qu'il aide un mineur isolé, c'est très fort.
Oui, mais lui-même,
il y trouve un intérêt.
Il y trouve un intérêt, puisqu'il n'arrive pas à trouver de gens.